Bonsoir. Deux thèmes sont retenus pour cette soirée. Nous irons d'abord à Kampala où, après l'examen et l'adoption mercredi du rapport sur la revue de l'accord de paix du 23 mars 2009 entre le gouvernement et le M23, une deuxième étape est à faire selon des sources proches de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. C'est celle de l'écoute des revendications légitimes du M23 par le gouvernement congolais. Ensuite, de Kampala, nous allons revenir à Kinshasa où, dans un point de presse organisé vendredi dernier à Kinshasa, le Premier ministre a jugé positive l'action de son gouvernement au cours de l'année 2012. Parmi les quelques grandes réalisations, Matata Ponyo a cité notamment la consolidation du cadre macroéconomique, un taux de croissance élevé et aussi une diplomatie agissante. Pour aborder ces sujets, je reçois trois confrères. Marcelin Mandouakila, directeur de rédaction au quotidien Forum des As, un journal qui paraît à Kinshasa. Marcelin Mandouakila, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Marie Bakoumania, rédacteur en chef desk économie au groupe de presse Le Potentiel. Bienvenue Marie Bakoumania, bonsoir.
Bonsoir cher confrère.
Jean-Baptiste Badera, directeur provincial de Radio Canal Futur et correspondant de l'agence France Presse au Sud Kivu. Jean-Baptiste Badera, bonsoir également.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capitale.
Bienvenue à tous dans la tribune de la presse de ce vendredi 8 février 2013. Ouvrons le bal par la revue de presse pour voir comment la presse quinoise a traité les sujets que nous abordons ce soir, à savoir le point des pourparlers de Kampala ainsi que la conférence de presse du Premier ministre organisée vendredi dernier à Kinshasa. Voyons cela avec vous, Samuel Kachak.
Bonsoir. Les pourparlers de Kampala figurent parmi les sujets qui ont retenu l'attention de la presse parue cette semaine à Kinshasa. La prospérité signale un accord partiel signé à Kampala entre le gouvernement congolais et le M23. Selon ce journal, cet accord de paix signé le 23 mars 2009 entre Kinshasa et le CNDP de Laurent Kunda envisageait entre autres la reconnaissance des grades des anciens militaires du CNDP au sein des FRDC, le retour des réfugiés, mais également la pacification du Nord Kivu, énumère le quotidien. Si réellement le travail est fini, le rapport signé est-il assorti des recommandations contraignantes pouvant empêcher la reprise des hostilités, se demande la prospérité, qui estime que des zones d'ombre persistent et méritent des éclaircissements. Le phare de son côté se montre pessimiste et voit un fiasco prévisible à Kampala. Une vision que ne partage pas la tempête des tropiques, qui voit par cet accord signé une mission accomplie pour la délégation de Kinshasa, dont certains membres sont déjà de retour dans la capitale congolaise. Sur un autre chapitre, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, dans une conférence de presse tenue le week-end dernier, a jugé positive l'action de son gouvernement au cours de l'année 2012. Forum des As titre à ce sujet « Délestage et carence d'eau, Matata Ponyo s'implique ». Ce journal rapporte que des financements mensuels seront accordés à la SNEL et à la Régie des eaux pour permettre à ces sociétés d'accroître leur capacité de fourniture en eau et en électricité. Une annonce faite par Matata Ponyo, le Premier ministre. Le phare titre, bilan et perspective du gouvernement, Matata Ponyo prend l'opinion à témoin. Concernant le volet social, outre des efforts pour assurer la régularité de la paie des fonctionnaires de l'État, la bancarisation effective de cette paie permettra la maîtrise des effectifs. Parmi les autres sujets ayant retenu l'attention de la presse parue cette semaine à Kinshasa, figure la situation dans l'est de la RDC où la société civile du Nord Kivu dénonce le renforcement des positions du M23 autour de Goma en province orientale avec les affrontements à Mombasa entre les FRDC et les hommes de Morgan et enfin les confessions religieuses qui réclament une commission électorale nationale indépendante moins politique.
Merci Samuel Kachak. Marcelin Mandouakila, vous êtes directeur de rédaction au quotidien Forum des As, un journal qui paraît à Kinshasa. Il y a beaucoup de sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Il y a notamment Évariste Bouchard, secrétaire général du PPRD, le parti présidentiel, qui consulte pour préparer le dialogue annoncé par le chef de l'État. Comment vous analysez cet aspect?
Oui, c'est une bonne initiative dans la mesure où Elle confirme la tenue du dialogue souhaité par tant la classe politique et la société civile. Et je pense que ce serait une bonne chose que cette initiative aille jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la tenue effective de ce dialogue, de manière un peu à atténuer les ardeurs du M23 qui va tomber justement sur le sujet des politiques internes ici. Donc, il revient à la partie congolaise ici de savoir prendre l'initiative, prendre le devant pour ne pas subir le revers de la médaille.
Bienvenue Marie Bakoumania, vous êtes rédacteur en chef d'Esk Économie au groupe de presse Le Potentiel. Évariste Bochabière a reçu tour à tour Arthur Zaïdi Ngoma, président des Forces du Futur, la délégation du MLC sous la direction de son secrétaire général Thomas Luaka et Jean-Claude Nvwemba du MLPC. Ne faudrait-il pas que ces concertations aillent un peu plus vite?
Oui, les concertations doivent aller un peu plus vite. La classe politique doit être en concertation permanente. Moi, je pense même qu'on est on est suffisamment en retard. Mais je formule tout de même une inquiétude. Maintenant que au niveau de Kampala, on va aborder les questions sociales et politiques, est-ce que les conclusions qui en sortiraient ne vont pas vider de sa substance le prochain cadre de concertation voulu par le chef de l'État? Je pense que c'est à cette interrogation que je reste suspendu et si Evariste Boshab avec les autres peuvent nous rassurer que ce qui se passerait à Kampala n'aura pas d'incidence, tant mieux.
Jean-Baptiste Badera, vous êtes directeur provincial de Radio Canal Futur et correspondant de l'agence France Presse au Sud Kivu. La situation sécuritaire dans l'Est reste préoccupante avec la polémique autour du renforcement des positions du M23 autour de la ville de Goma au Nord Kivu, en province orientale. Ce sont les affrontements entre les FRDC et les hommes de Morgan à Mambasa et au Nord Katanga, c'est encore et toujours les attaques des Mai Mai au Sud Kivu. Quelle est l'actualité? Comment vous vivez cette pression sur le plan sécuritaire?
Merci beaucoup. Sur le plan sécuritaire, je pense qu'on peut parler d'une accalmie relative au niveau de terrain militaire, parce qu'il y a des affrontements en début du mois de janvier qui étaient signalés dans le territoire de Walungu avec un nouveau groupe armé. Mais il y a aussi la naissance d'un autre groupe armé qui vient de voir le jour il y a de cela deux semaines dans la province du Sud Kivu. Donc on peut parler d'un calme relatif, mais en tout cas il faut dire que la population est apeurée. Et parmi les points qui dominent également l'actualité ici au Sud Kivu, c'est le retour du gouverneur de province après une mission à Lubumbashi à Kinshasa et les travaux de la voirie urbaine de réhabilitation qui continue dans cette partie du pays. Mais également il y a cette nouvelle brasserie qui vient de voir le jour dans la province du Nord Kivu, à Beni précisément, avec comme conséquence impact sur le Sud Kivu, c'est la Bra Congo avec cette nouvelle bière. Il y a l'appareillement qui multiplie des points de presse pour assurer sa clientèle.
Voilà, avant que l'on termine ce tour des autres sujets qui ont fait l'actualité, Marcelin Mandouakila, il y a cette conférence, ce point de presse des confessions religieuses vendredi dernier autour toujours de la nouvelle loi sur la CENI qui paraît plus politique pour les hommes des dieux.
Bon, en principe, une structure, une institution comme la CENI ne devrait pas être l'apanage des politiciens. C'est ça le mal chez nous. Parce que ce sont en même temps des adversaires sur le terrain électoral. Et c'est eux qui contrôlent également la machine qui organise les élections.
Ils sont jugés partis.
Jugés partis. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Je comprends la préoccupation de communautés religieuses. Mais est-ce que c'est pour autant qu'elles auront gain de cause? Je suis vraiment pessimiste.
Bienvenue Marie Bakoumania. Ce dimanche, c'est déjà la finale de la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2013 qui opposera le Nigeria au Burkina Faso. Avez-vous un pronostic?
Sur papier, le Nigeria part favori. Le Burkina Faso, qui est la surprise de cette finale, pourrait également créer la surprise, comme c'est une équipe de surprises. Mais je suis d'avis que le Nigeria, avec l'expérience et ce retour du grand entraîneur Stéphane Kechi, pourrait prendre le trophée.
Jean-Baptiste Badera, avez-vous également un pronostic pour le match de ce dimanche entre le Nigeria et le Burkina Faso?
Oui, sur papier, comme vient de le dire mon confrère Bakoumani, le Nigeria pas largement favori, mais dans cette CAN, on a vu pas mal de surprises. Des pays comme le Cap Vert, comme le Niger, ont créé des surprises dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, en tout cas, même si le Nigeria part avec les faveurs des pronostics, mais il faut dire que c'est un match qui sera très difficile. Donc, pronostics difficiles à mettre, mais ambiance de grands jours garantis.
Marcel Amandouaki, la prise vous arrache quand même un pronostic.
Ouf. Je risque d'épouser la thèse de bienvenue et le Nigeria avec son expérience. Mais si jamais le Burkina remportait la Coupe, ce serait une grande première. Ça va motiver les autres nations qu'on appelle des petites nations de football pour dire que maintenant les choses évoluent un peu plus vite. Vous voyez le cas de la RDC, deux fois championne du monde, plutôt d'Afrique de football, mais c'était la débandade là l'autre fois.
Voilà, rendons-nous à présent à Kampala pour aborder notre premier thème de ce soir. Après les examen et l'adoption mercredi du rapport sur la revue de l'accord de paix du 23 mars 2009 entre le gouvernement et le M23, que prévoit la suite. D'après notre envoyé spécial sur place, une deuxième étape est à faire selon des sources proches de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. C'est celle de l'écoute des revendications légitimes du M23 par le gouvernement congolais. Ce qui veut dire, selon la même source, que le gouvernement congolais va examiner les doléances de la rébellion et apporter des réponses à celles qu'il estime légitimes. Lievin Mwinga est notre envoyé spécial dans la capitale ougandaise.
En effet, lors de la réunion de trois chefs d'État de la CIRGL du 24 novembre 2012 à Kampala, ils ont mis en garde le M23 de ne pas remettre en cause le pouvoir de Kinshasa. Or, la délégation du M23 a reconnu, entre autres, la révision de la vérité des urnes, chose inacceptable, a reconnu le gouvernement. Et les deux parties ont finalement résolu de se référer à la décision des trois chefs d'État de la CIRGL. Ce deuxième point comprend, lui, trois autres étapes, notamment la sécurité, les questions socio-politiques, économiques et enfin, troisième point, le mécanisme de suivi de mise en œuvre de l'accord. À quand la clôture de ces assises, le ministre ougandais de la Défense et facilitateur Crispus Kiyonga a été clair, pas de délai butoir en pareille discussion, a-t-il répété lors de l'adoption du rapport sur la revue de l'accord du 23 mars. Comme disent les Anglais, wait and see. Depuis Kampala, Lévin Bouinga, Radio Kapi.
Merci Lévin Bouinga, Marcelin Mandouakila. Vous êtes directeur de rédaction au quotidien Forum des As, un journal qui parie à Kinshasa. Le journal La Prospérité, que nous avons suivi tout à l'heure dans la revue de presse, estimé qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui persistent et méritent des éclaircissements. Avez-vous le même sentiment?
Oui, moi je pense que pour ce qui est de cet aspect ou de cette question, c'est le gouvernement qui ne semble pas être constant dans sa logique. Le gouvernement en alla à Kampala n'avait qu'une seule thèse. L'évaluation des accords signés le 23 mars 2009. Cet accord a été signé avec le 23. Là, on parle des dispositions qui ont été mises en œuvre, celles qui sont en cours et celles qui ne le sont pas. Ils ne sont pas encore. Mais justement, maintenant, le gouvernement, puisqu'il a obtenu ce qu'il voulait, le gouvernement devrait anticiper pour tempérer les ardeurs de rebelles, notamment en lançant le forum. Je suis d'accord avec Bienvenu quand il dit que non, on a connu suffisamment de retard. Maintenant, le 23 va aligner des questions de politique interne. En fait, il va enlever l'eau à la bouche de l'opposition politique. Or, le dialogue ici aura, entre autres participants, l'opposition politique. Le gouvernement devrait anticiper la vérité des urnes. Qu'est-ce que le M23 a à voir avec? Même quand c'était le CNDP, on a signé des accords en 2009. Mais ça c'est une thèse de l'UDP, ça n'a rien à voir avec le M23. Mais on récupère. On va parler peut-être de l'arrestation de Coutinho, de l'arrestation de Mokia. Mais à la limite, pourquoi on garderait Mokia et Coutinho en prison jusqu'à 7h? Quels péchés ont-ils commis? Le M23, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'exactions. Ils sont même étiquetés, ces rebelles sont étiquetés comme étant de...
Force négative.
Pas seulement force négative, des criminels. À côté de ce que Coutinho et Mokia ont fait, moi je me pose des questions. Donc, Kinshasa devrait anticiper. Il faut pas que Bossa prenne beaucoup de semaines avec ses contacts. Les contacts qu'il prend, on le sait, c'est pour se mettre d'accord sur le contenu du forum. De quoi vont-on parler? Mais qu'on aille vite à l'essentiel. Sinon, le gouvernement va tomber sous le piège du M23. Si on n'anticipe pas pour que l'opposition politique récupère ses revendications et les pose dans un forum bien donné, le M23 risque d'obtenir gain de cause. Or, là-bas, on sait que ça va capoter. Donc, il faut déjà avoir notre fer au feu pour éviter finalement de se brûler.
Bienvenue Marie Bakoumania, vous êtes rédacteur en chef d'Esk Économie au groupe de presse Le Potentiel. Finalement, tendons-nous vers un accord formel qu'on attend à éviter, qui pourrait déboucher sur la formation d'un gouvernement, ceci, cela.
Mais justement, le M23 veut pousser le gouvernement vers cette... Non, pas le gouvernement, veut pousser la partie Kinshasa vers cette faute, c'est-à-dire sortir de la Constitution. Aujourd'hui, si l'on va, on va mettre en place un nouveau gouvernement, on va mettre en place une autorité de transition, on va respecter quelle Constitution? Quelle constitution on va respecter et on va amender quelles dispositions constitutionnelles suivant quelle volonté de la population congolaise. Je pense que c'est la vraie question. Et là, le gouvernement qui aujourd'hui, ben ma foi, c'est un aveu de n'avoir pas réalisé certaines revendications du M23 et le M23 est sauté sur l'occasion pour dire que ma guerre était légitime. Ben moi, je suis d'avis que le gouvernement, en signant cet accord, ces rapports partiels d'évaluation, le gouvernement vient d'accepter, vient de légitimer l'action du M23. Moi, je pense qu'on devrait camper sur une position très nette et très claire pour démontrer à la face du monde que le M23 est de très mauvaise foi et que le M23 a plutôt un autre agenda. L'agenda qui consiste à dire que 15 articles ont été réalisés, 8 étaient en train d'être réalisés, mais la majorité des revendications du M23 ont été rencontrées. Et les 12 qui restent et qui ne sont pas encore réalisés, il appartient au parti aujourd'hui, avec la facilitation, la suspecte facilitation, il leur appartient de faire en sorte que on puisse se concentrer sur les 12 points qui restent à exécuter. Ben, je pense que la vigilance doit être de mise. Hein, les délégués qui sont à ces pourparlers ne devraient pas se comporter en plénipotentiaire. Moi, je pense que les mandants que nous sommes, nous devons veiller à ce qu'ils ne puissent plus aller, parce que là, on s'approche dangereusement vers la ligne rouge.
Jean-Baptiste Badera, vous êtes directeur provincial de Radio-Canal Futur et correspondant de l'agence France Presse au Sud Kivu. Bienvenue Marie Bakoumania, ainsi que Marcelin Mandouakila, d'ailleurs, soutiennent qu'il fallait que le gouvernement campe sur une position nette, mais cela est-il possible par rapport à la réalité sur le terrain militaire? La société civile du Nord Kivu a notamment dénoncé le fait qu'il y aurait des renforcements des positions du M23. Cela a été démenti par certaines autorités.
Bon, ça sera une situation très très difficile, Alain Hung, parce que déjà, ce ne sont pas seulement les deux confrères qui disent cela. Il y a également le porte-parole, l'un des porte-parole du M23, Monsieur Bertrand Bissimois, qui, selon Jeune Afrique, a dit que la zone tampon de 6 kilomètres qu'on avait demandé n'est toujours pas en place et qu'il suffirait d'une étincelle, d'un cas isolé pour que le combat reprenne. Donc, ce n'est pas seulement la crainte des confrères, mais c'est également la crainte sur le terrain. Et au vu même de ce qui se passe, on se demande si le gouvernement a un seul langage dans ce qui se passe à Kampala. Parce que quand on entend parler ici au Sud Kivu, on a comme impression qu'il y a chaque autorité qui parle a une position par rapport à ce qui se passe à Kampala. Et aujourd'hui, dire que non, avec ce qui se passe, il fallait que pour ce coup de M23, je pense que c'est tout un problème. On ne sait pas comment justifier que le gouvernement prennent en charge le délégué du M23, ses propres délégués, avec interdit M de moins $150 par délégué et par jour selon toujours en Afrique, et qu'en même temps, ils disent qu'il s'agit là d'une force négative, alors qu'il y a d'autres groupes armés et qui également ont des revendications à dire. Et c'est tout ça la contradiction qu'il y a, et ce qui pousse les gens de cette partie du pays à être très pessimistes par rapport à ce qui se passe à Kampala et par rapport à l'aboutissement de ces négociations.
Marcelin Mandouakila, Jean-Baptiste Badera souligne le fait que chaque autorité qui s'exprime autour de ces pourparlers de Kampala semble énoncer une position particulière. On a quand même l'impression qu'il y a absence d'un point de vue commun qu'il fallait ou d'une communication harmonisée autour de ce qu'il fallait déclarer par rapport à ces pourparlers.
Oui, il se pose un problème de coordination. Vous savez, en politique, il y a parfois des excès de zèle pour montrer qu'on aime plus le chef que ce qui constitue la voie autorisée. Il y a un problème de coordination, un problème de discipline même, comme on disait à l'époque du MPR, la discipline du parti. En fait, je crois que... Jean-Baptiste vient d'évoquer d'autres groupes armés. Je crois que ceux-là aussi, il faudra les intégrer dans le Forum national. Il faut tout faire pour contourner le M23, au lieu d'atteindre, comme l'a dit, bienvenue la ligne rouge. C'est vrai qu'il y a un problème de gouvernement, mais qui ne veut pas être gouvernement? Le M23 ou les opposants d'ici?
Mais il faut savoir le faire dans un cadre qui nous permette de ne pas être en dehors de la Constitution, de ne pas trop minorer les institutions de la République, de rester dans le cadre avec juste quelques modifications. Mais tout dépend de cette force d'anticipation. Il faut pas subir les événements, il faut les orienter. C'est ce que Kinshasa doit faire.
Oui, mais c'est la même question que je posais à Jean-Baptiste Badera tout à l'heure, Marcel Amandouakila. Kinshasa devrait garder une ligne nette, mais par rapport à la réalité sur le terrain militaire, le M23 qui renforcerait ses positions, ainsi de suite, Kinshasa a-t-il finalement les mains libres?
Mais les fronts ont été définis dès le départ. Front diplomatique, front politique, front militaire.
Front diplomatique. Qui ont échoué d'après certains observateurs.
Le lobbying ne doit pas être le monopole du Rwanda. Pendant tout ce temps qu'on négociait, il fallait pour sauter sur l'occasion, envoyer des gens dans des cercles qui décident sur la gestion du monde. Il fallait le faire. Sur le plan politique, il fallait ce forum-là aussi. Sur le plan militaire, pendant qu'on discute, il faut avancer. L'M23 est à 1 km de l'aéroport. Comment le contourner? Comment faire en sorte qu'il n'ait pas beaucoup de prétentions? C'est juste que là, ce n'est pas fait. Je suis vraiment désolé.
Bienvenue Marie Bakoumania. Le phare sur cette question se montre pessimiste et voit un fiasco prévisible à Kampala.
Mais à Kampala, personne n'avait vu, personne de censé, hein, n'avait vu une quelconque victoire ou eu des résultats positifs venir de Kampala. Hein, de Kampala, c'est piloté par le l'Ouganda et le Rwanda. C'est l'agenda qui n'est pas congolais. La solution qui sortirait de Kampala ne serait pas dans le sens des intérêts des Congolais et de la République démocratique du Congo. Le contraire me surprendrait énormément. Et là, quand le trésor public a déboursé 150 dollars par jour par délégué du M23, je me dis, est-ce que là, on n'est pas déjà en train de démontrer que on accorde autant d'importance au M23, on accorde cette importance non seulement pour rechercher la paix, mais beaucoup plus pour sauver les individus qui constituent les M23. Moi, je pense que c'est inadmissible d'entendre des trucs, des choses pareilles lorsque l'on sait qu'un cadre de concertation pour la cohésion nationale est à venir. On ferait mieux de demander au M23, si ce sont des Congolais et s'ils sont avec nous au Congo, de venir soit à Kinshasa, soit à Goma. On peut tenir les cadres de concertation à l'intérieur de frontières nationales et sous la supervision peut-être des personnalités morales. Dans ce pays, ça existe. On en a beaucoup. Des notabilités respectables. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dire que la situation sur le terrain influe à la table des négociations, c'est oui. Mais je dis, si le gouvernement, si nous avons réellement un gouvernement, pendant que ils étaient en train de négocier, ils étaient dans cette distraction de Kampala, ils auraient dû déjà renforcer les positions militaires. Il ne faut pas qu'on pleure seulement le M23 renforce les positions militaires. Pourquoi est-ce que notre FARDC, mais ils devraient également consolider leur position et même aller à l'offensive parce qu'il y avait trois fers au feu. Front militaire, front diplomatique et front politique. Le front politique jusque-là, il est toujours en berne. Le front diplomatique, il donne des résultats qui donnent, c'est-à-dire des résultats en faveur du Rwanda et de l'Ouganda et du M23, mais il ne reste plus que le front militaire que nous devons réactiver, justement pour que nous puissions nous faire respecter et influer sur la table des négociations.
Jean-Baptiste Badera, il y a certains observateurs qui voient par cet accord partiel signé à Kampala une mission accomplie pour la délégation de Kinshasa, dont d'ailleurs certains membres sont déjà de retour dans la capitale.
En tout cas, loin de là, moi je ne pense pas que ça soit ça le cas, parce que quand j'ai suivi ce matin le ministre de la Communication, M. Lambert Mende, lui a parlé qu'il y a, il y aurait encore un comité technique restreint qui va poursuivre le travail à Kampala, mais il a également insinué que non, ce n'est pas parce qu'on a écouté le M23 que directement il est sanctifié. Ce n'est pas parce que on a entendu un malfrat devant un juste, alors Lambert Mende qui l'exonérait de ses crimes. Donc vous comprenez tout ça, pendant qu'on dit ça, il y a encore d'autres points, parce que j'ai suivi également ce matin sur Radio Okapi, même sur la défense internationale, qu'il y a maintenant d'autres points qui seront entendus, notamment des questions sécuritaires, politiques, économiques et sociales, mais cela va se faire dans un cadre restreint, parce que selon des sources proches de la délégation de Kinshasa à Kampala, certains membres de la délégation ont rentré, mais mais les autres sont arrêtés pour poursuivre les autres aspects des négociations. Donc, ça ne peut pas confirmer que non, ça sera la fin ou que tout est fini et que c'est une victoire loin de là, parce qu'il y a d'autres points. On a bien dit que 23 dispositions ont été pleinement, 15 l'ont été pleinement et 8 partiellement, mais il y a encore d'autres dispositions, 12, hein, qui doivent être exécutées. On parle notamment des retours de réfugiés. Donc, vous comprenez qu'il y a encore d'autres points. Mais moi, je crois, Alain Heroun, que ce n'est pas ça la question. Quand vous avez commencé l'émission, vous m'aviez posé une question sur la situation sécuritaire. Vous avez fait un monitoring, ce qui se passe dans la province orientale, dans le nord Kivu, avec ce qui se passe à Nyamirima, je pense, sur le Kivu 1. Il y a ce qui se passe au sud Kivu, il y a dans le nord Katanga, les chefs coutumiers qui ont même fui jusqu'à Lubumbashi à cause de l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays. Donc vous comprenez qu'il y a un problème, et moi je pense que le seul salut, ce n'est pas ce qui se passe en Kampala, mais plutôt ce que tout le monde veut, ce que le chef de l'État avait commis en décembre de ces dialogues nationaux pour savoir ce qui se passe exactement. Pendant qu'on est en train de chercher une solution avec le M23 à Kampala, des groupes armés naissent encore, et il faut dire qu'ils sont des villages entiers qui souffrent dans l'est de la République démocratique du Congo.
Marcelin Mandouakila, la prochaine étape, c'est celle de l'écoute des revendications légitimes du M23 par le gouvernement congolais. Revendications légitimes, c'est un panier à crabe, un fourre-tout.
Légitime. Vous savez, le M23, en fait, fait damer le pion à l'opposition politique. Si je ne prends que l'aspect relatif à la vérité des urnes. Mes chers amis, soyons sérieux. La vérité des urnes, c'est le combat de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est le patron de l'UDPS. L'UDPS est à Kinshasa. Au nom de quoi le M23 va faire de cette revendication ou de ce panier de revendications son affaire personnelle? Tout dépend de ce que nous voulons. Le M23 est au bout du rouleau. Le M23 cherche par où passer pour qu'on refasse le gouvernement, pour qu'il ait plus de prétentions. C'est que le professeur Kalé l'appelait à l'époque, chaque fois qu'on négocie, ça contribue à l'infiltration qu'organisent les Rwandais en RDC. Donc si nous ne sommes pas anticipés sur le plan politique, c'est grave. Sur le plan militaire, d'autres groupes armés naissent. Si nous sommes toujours incapables de défendre nos villages, je crois qu'en fait des comptes, nous allons subir ce qui peut-être va vraiment décourager le peuple congolais.
Bienvenue Marie Bakoumania. Anticipé sur le plan politique, il y a déjà Évariste Boshab, le secrétaire général du PPRD, qui a commencé les consultations, on en a parlé. Mais on sait comment souvent les choses se passent ici en RDC. Lorsqu'il y a consultation, ça tire en longueur. Il y a des discussions interminables. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille vite?
Pour que ça aille vite, il ne faut pas tomber dans les erreurs du passé. Et les erreurs du passé, c'est notamment M23 qui veut couper l'herbe au cadre des concertations à venir et qui pose déjà par exemple la question de la vérité des urnes. Qui ne sait pas que les voix toxiques du M23 ont plutôt voté à l'époque, aux élections du 28 novembre, en faveur du président Kabila? On devait anticiper déjà à cette époque-là, dans les camps présidentiels, et dire que ces voix, monsieur du M23, vous voulez nous donner vos voix, mais nous estimons que vos voix sont toxiques et ils vont nous créer des problèmes. Voilà, ils ont créé effectivement des problèmes. Aujourd'hui, le CNDP qui est membre de la MEP, aujourd'hui, la survivance du CNDP, non pas la survivance, l'un des fils du CNDP, le M23, est en train de faire la guerre au pays. Donc c'est dire que cette mascarade du M23 et cette anticipation de la part du gouvernement, c'est également voir loin. Je prends le cas de Roger Lumbala. Roger Lumbala a signé l'accord au nom du M23. À son retour, qu'est-ce qu'on ferait de lui? Qu'est-ce que toutes les sanctions qui ont été prises contre Roger Lumbala ici à Kinshasa, il sera poursuivi par le PGR et tout ça. Maintenant qu'il a signé pour le compte du M23, le jour qu'ils vont former un gouvernement et que le M23 présente Roger Lumbala comme ministre, le président refuserait de signer l'ordonnance de le nommant. Je pense que c'est ça anticiper. Tant qu'on n'aura pas cette intelligence de comprendre certaines choses, de ne pas négocier de n'importe quelle manière, de ne pas intégrer les voix qu'on ne pouvait pas intégrer à l'époque, on subit les conséquences qu'on est en train de subir aujourd'hui. Malheureusement, ça dépeint sur toute la nation. Les conséquences, c'est plus sur la pauvre population de l'Est. Malheureusement, mais si on était en situation normale, on devrait plutôt blâmer sévèrement le gouvernement. Mais les temps sont tels qu'ils sont et on doit défendre le pays à tout prix.
Jean-Baptiste Badera, brièvement, quelle est finalement la voie de sortie par rapport à Kampala? Et nous allons aborder notre deuxième thème.
Par rapport à Kampala, moi je pense que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, hein, je pense qu'il n'y a aucune voie de sortie à Kampala et qu'il n'y aura aucune solution qui sortira de Kampala. La seule voie, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les discussions internes, un dialogue interne, comme l'a préconisé le chef de l'État. Malheureusement, j'ai suivi encore, ça revient au PPRD avec le professeur Bouchard qui a commencé des consultations. Vous allez voir que ça va encore être un peu comme lors des consultations qu'avait amorcé Mwando Simba. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai quitté les négociations, je cherche à éviter les vrais opposants. Tu sais qu'il dit, c'est parmi les grands opposants, vous allez voir qu'on va les recevoir difficilement, peut-être pas. Il y a également Vital Kamerhe de l'UNC qui était sorti troisième, mais également Tien Guado, mais on va tourner autour du pot et en définitive, ça va, on va avoir le temps rallonge sur la longe et puis, dès le sortir, on va continuer à vivre la situation malheureuse qu'on est en train de connaître aujourd'hui.
Merci Jean-Baptiste Badera. Revenons ici à Kinshasa. L'an 2012 aura été une année de quelques grandes réalisations par le gouvernement de la RDC. Les acquis de 2012 doivent être consolidés en 2013 en vue du bien-être du peuple congolais. C'est le Premier ministre Matata Ponyo qui l'a dit vendredi dernier lors d'un échange avec la presse quinoise. De la politique aux réformes dans l'amélioration du climat des affaires en passant par la sécurité et la diplomatie, l'économie, le social et la culture, le bilan 2012 du Premier ministre qu'il juge globalement positif a succinctement porté sur tous les volets de la vie nationale. Daniel Tambinzoni.
Grâce à sa diplomatie agissante, a relevé Matata Ponyo dans son bilan politique, sécuritaire et diplomatique, le gouvernement congolais a su mobiliser toute la communauté internationale qui a fini par reconnaître par les résolutions des Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique, l'agression de la RDC et a reconnu le M23 parmi les forces négatives. Les textes fixant les nomenclatures du pouvoir central ainsi que ceux des pouvoirs provinciaux dans le cadre de la décentralisation ont été élaborés et soumis au Parlement. La situation de l'Est a été assez mieux gérée, a dit le Premier ministre. La consolidation du cadre macroéconomique acquise en 2012 devra se poursuivre en 2013. Le meilleur taux d'inflation de moins de 3%, les réserves internationales qui représentent actuellement près de 10 semaines d'importation, le solde budgétaire 2012 positif de plus de 3 milliards de francs congolais, ajouté à cela les efforts pour maintenir la régularité de la paie des fonctionnaires de l'État et cela par voie bancaire, Matata Ponyo les considère comme un acquis social à consolider en 2013. Dans le compte des perspectives 2013, Matata Ponyo place le refinancement de la SOFIDE afin de renforcer la capacité d'absorption des crédits dans le secteur agricole. Des fonds seront mis à contribution, a-t-il dit, en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité à l'est du pays pour soutenir l'organisation des élections provinciales et locales. Le recensement de la population est aussi inscrit au programme 2013 du gouvernement congolais.
Merci Daniel Tambinzoni. Bienvenue Marie Bakoumania. Vous êtes rédacteur en chef d'Esk Économie au groupe de presse Le Potentiel. Comment vous analysez ce bilan dressé par le Premier ministre?
Oui, le bilan du Premier ministre sur le plan économique, j'aimerais mieux m'étendre là-dessus. Jamais j'ai des mémoires de chroniqueurs économiques. Les finances publiques n'ont été mieux tenues que sous le gouvernement Matata. Ben, les efforts ont déjà commencé avec le gouvernement Mozito, il faut le reconnaître, c'est parti de là et Matata les a consolidés. Il faut les lui reconnaître. Mais on ne peut pas dire d'un côté qu'on a tout consolidé et de l'autre côté on a les sociales qui posent problème. On ne peut pas aligner de surplus budgétaire alors que les fournisseurs, la dette intérieure n'est pas payée. Hein. Ce sont pour moi des insuffisances que le Premier ministre aurait dû tenir compte et tempérer quelque peu son optimisme et sa satisfaction. Hein, je pense qu'il y a encore des efforts à fournir et on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui quand on est en rupture avec le Fonds monétaire international, même si ce n'est pas une rupture consommée, une rupture totale, mais on n'est pas en programme avec le Fonds monétaire international pour un État en développement, pour un État post-conflit. C'est difficile de présenter des résultats aussi mirobolants, des résultats qui vous font rêver, alors que on n'est pas en programme avec le Fonds monétaire. Est-ce que le Premier ministre veut nous dire que désormais la RDC se passera des institutions de Bretton Woods parce que il se sentirait les reins suffisamment solides pour faire face à toutes les difficultés? Moi, j'aimerais bien voir le Premier ministre dans une année nous dire que bon, ça va très bien comme il l'a dit dernièrement ici. Bah, sur le plan de mobilisation diplomatique,
une diplomatie agissante.
Ben oui, ça c'est aussi une auto-satisfaction que moi j'étempérerais si j'étais le Premier ministre, dans la mesure où le succès diplomatique aujourd'hui, est-ce que c'est le fait de la République démocratique du Congo? Je doute très fort, parce que ces succès est plutôt le fait des experts onusiens qui ont enquêté sur la violation de l'embargo des armes sur la République démocratique du Congo. Peut-être c'était à la demande de la RDC, je ne le sais pas, mais je doute fort, je ne dis pas que c'était grâce à la diplomatie congolaise, ça je suis convaincu que c'était pas le cas.
Marcelin Mandwakila, vous êtes directeur de rédaction au quotidien Forum des As, un journal qui parie à Kinshasa. Bienvenue Marie Bakoumania. Sur le plan économique, confirme la consolidation des acquis économiques par le gouvernement Matata Ponyo, mais des acquis qui contrastent avec l'amélioration du social. En d'autres termes, on ne mange pas la rigueur.
Vous savez, si pour une fois je suis d'accord avec le Premier ministre Matata, c'est qu'on commence à sortir du refrain qui constitue la combinaison des sons agréables à l'oreille du FMI et de la Banque mondiale. Maîtrise du cadre macroéconomique, maîtrise de l'inflation, même le chef du
taux de croissance élevé.
Plus grave, 7% plus que les États-Unis. Même une fois, le chef d'État dans un discours a dit que le peuple était fatigué de tout ça. Lorsque Matata parle maintenant de l'eau et de l'électricité, j'ai dit, ah voilà. Les bilans doivent être par rapport aux attentes de la population. Cadre macroéconomique, Kengo en a parlé sur la deuxième république, il n'y a pas longtemps, mon citoyen nous a, qui était aussi un expert, est revenu sur ça. Quand Matata en parle, il y a rien de nouveau, c'est comme si tous y copiaient ses articles sur un discours. Il faut rencontrer les attentes de la population. Que demande la population? Il y a un problème d'électricité, il faut résoudre. Il y a un problème d'eau, il faut résoudre. Il y a un problème de transport. Même quand on achète des bus, on les expose à Matata, comme si ce n'était pas urgent. Mais on attend quoi pour le mettre en service? Des formalités administratives. Un bus de l'État qui roulerait à Kinshasa sans plaque, je ne vois aucun roulage l'arrêter. Donc, on doit aller vers les attentes de la population. Améliorer les conditions de vie de la population. Voilà les bilans qu'on attend sur le plan social. Et non pas cadre macroéconomique, maîtrise de l'inflation, etc. C'est de l'abstrait. Il faut du concret maintenant. Donc, pour une fois, Matata l'a compris. Et sur le plan diplomatique, lorsqu'on dit que voilà, peut-être qu'on se porte mieux, mais c'est comme si on était en football. Lorsqu'on arrive à se qualifier pour la Coupe d'Afrique, on est heureux, on commence à fêter. On oublie que ce n'est qu'un début. C'est vrai, on a reconnu l'agression. Oui, mais qu'est-ce que nous faisons pour damer le pion au Rwanda sur le plan diplomatique en matière de lobbying? Est-ce que nous devons nous limiter à cela ou aller au-delà? On devrait même exiger des sanctions contre le Rwanda. On ne le fait pas. Des sanctions comme le M23 dont les membres sont des criminels. On ne le fait pas. On fait de l'autosatisfaction. C'est ça ce qui est dangereux pour le Congolais. C'est comme ça qu'on a même été surpris à la CAN. On ne savait pas que quand on se qualifie pour aller en Afrique du Sud, il y a les premiers tours, il y a les quarts, il y a les demi-finales. On a tout oublié. Les sociétés, c'était d'être là. Ça, c'est dangereux pour le Congolais. Nous devons savoir toujours anticiper. Nous préparons en fonction de ce que nous voulons. Voilà ce que je peux dire à ce sujet.
Jean-Baptiste Badera, vous êtes directeur provincial de Radio Canal Futur et correspondant de l'agence France Presse au Sud Kivu. La situation de l'Est a été assez mieux gérée, a dit le Premier ministre. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
En tout cas, je pense que là, le Premier ministre n'a pas dit vrai, parce que la situation est mieux gérée, c'est-à-dire quoi exactement? Qu'est-ce que... je ne veux pas les préjuger, mais en tout cas, j'ai pas hein, ce discours-là, je ne sais pas ce que lui veut dire quand il parle de mieux gérer. Dans tous les cas, on sait qu'il y a une grande partie de la province du Nord Kivu qui reste occupée par la rébellion du M23. Il y a d'autres coins de la province du Sud Kivu où les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, ne peuvent pas accéder parce qu'il y a des groupes armés qui sévissent dans ces parties-là. Et jusqu'aujourd'hui, en tout cas, on ne voit pas un début de solution. Certes, les FARDC se battent sur le terrain pour essayer de mettre fin à ces séries de groupes armés, mais en tout cas, ce n'est pas que c'est fini, ça continue et d'autres poussent. Je ne pense pas, en tout cas, à mon avis, que la situation de l'Est a été mieux gérée, comme on l'a dit. Plutôt, on sent juste une petite accalmie, mais vous suivez chaque semaine sur Radio Capé, sur d'autres chaînes, vous suivez ce qui se passe dans les différents territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Vu que la situation a été mieux gérée, là, en tout cas, je ne peux pas passer point de vue, et je pense que la plupart de ceux qui me tiennent ne peuvent pas partager ce point de vue. En tout cas, je pense que là, il faudrait encore un effort supplémentaire, et cela étant, il faut également dire que sur le plan de la diplomatie, quand le premier se dit que non, il y a eu l'activisme de la diplomatie congolaise qui a réussi à faire notamment reconnaître le M23 comme une force négative. Je crois que là, comme l'a dit Bienvenue, ce sont les Nations Unies qui ont encore une fois aidé à trouver cela. Je ne pense pas que ce soit le Congo. Et quand on dit qu'on a gagné diplomatiquement, mais sur le terrain, comment les choses se présentent? Est-ce qu'on a réussi à bouter la rébellion hors des frontières nationales? Est-ce qu'on a restabilisé toute la partie est de la RDC? Je vois que là, vraiment, il y a une nuance à faire à l'air.
La réalisation me signale qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Donc, je demanderai des interventions assez brèves pour que nous puissions atterrir en beauté. Bienvenue Marie Bakoumania. Il y avait certains besoins de communiquer. La population congolaise a besoin de savoir comment marche son pays. Cela devrait-il nécessairement passer par un bilan comme l'a fait le Premier ministre?
Bon, c'est sa manière de communiquer. Je pense que le Premier ministre ferait mieux de toujours communiquer. Je pense que c'était même une recommandation de son prédécesseur. Il lui avait demandé de communiquer. Mais je constate que le Premier ministre communique mal. Il communique pas assez du tout. Il était à Washington. On attendait même recevoir un mail. On n'a pas reçu pour savoir que le Premier ministre a eu telle activité. Et quand il communique dans les contenus de sa communication, il faut éviter de revenir sur des choses qui ont été déjà abordées auparavant. Rappelez-vous, par rapport à l'électricité et à l'eau, il y avait un programme d'extrême urgence dans ce pays. Quel en a été le bilan? Lorsque le Premier ministre parle des financements mensuels, ben, les vaches de Massissi en rient. Ils en rigolent parce qu'ils se disent, ben, il est encore de nous raconter quelle histoire. Je pense que dans le contenu de la communication, il serait mieux que les actes précèdent cette communication. Qu'on pose des actes, que les gens constatent effectivement que l'électricité est mieux desservie désormais et que le Premier ministre vient nous dire, voilà ce que je fais dans le secteur de l'électricité, de l'enseignement, etc.
Marcelin Mandwakila, le Premier ministre a également fait allusion au refinancement de la SOFIDE afin de renforcer la capacité d'absorption des crédits dans le secteur agricole. Est-ce déjà un départ?
Bon, moi je me dis souvent, nous ne sommes pas ce que nous voulons. Quand on regarde la part que le budget réserve à l'agriculture, c'est vraiment insignifiant. Or, ça devait être la priorité parmi les secteurs prioritaires pour relancer le pays. On en parle, mais lorsqu'il faut passer aux actes, confectionner un budget, on se rend compte qu'on est loin de la préoccupation qu'on exprime dans le bilan pour une autosatisfaction. Je pense que nous connaissons le secteur prioritaire. Nous avons la guerre, c'est vrai, mais nous ne devons pas laisser tomber le secteur agricole. Nous devons vraiment le relancer. À l'époque, l'État s'était désengagé. C'est la FAO qui faisait un peu tout. C'est le temps que l'État revienne sur le terrain. Et pour relancer l'ensemble de ces secteurs, pour que nous puissions atteindre ce qu'on nous dit généralement en guise de refrain, l'autosuffisance alimentaire.
Voilà, Jean-Baptiste Badera, le Premier ministre a annoncé des subventions de la Régie des eaux et de la SNEL pour améliorer la desserte en eau et en électricité, mais entre-temps, on sait que l'État congolais doit beaucoup d'argent à ces deux entreprises.
Oui, tout à fait. C'est là le grand problème. Je ne pense pas que on puisse arriver à réussir cette subvention de l'État pour améliorer cette desserte en eau et en électricité. D'autant plus que c'est d'abord qu'il y a l'État lui-même qui a fragilisé ces deux entreprises avec, entre autres, autant de dettes. Mais également, je pense que, comme l'ont dit les déconfins, comme l'a dit le chef de l'État lors de son discours sur l'état de la nation en décembre dernier, je pense que ce n'est pas toujours aisé de se limiter tout le temps à des discours, à dire que non, on a atteint tel cadre macroéconomique, qu'on a Je me rappelle encore fait une émission sur quand on a atteint le point d'achèvement de PPTE, il y a 2 ans, mais jusqu'ici, au niveau de la base, on ne sent rien. Quand on parle de la bancarisation également, il faut dire ici à Alain Roum que dans beaucoup de territoires, il n'y a pas de banque. Et là, comment ça va se passer? Donc, les gens seront obligés de faire des kilomètres à pied. Et là, ce sont les élèves qui vont en partir pour aller chercher le banque. Donc, il y a autant de dispenses qu'il y a une absence de planification au niveau de ce qui se passe sur le plan du gouvernement national.
Voilà, juste un mot à chacun pour conclure. Bienvenue, Marie Bakoumaya.
Moi, je souhaiterais que l'on puisse mettre un accent particulier sur la formation d'une armée. Notre pays a besoin de se défendre pour que dans le concert des nations, il puisse être audible.
Marcel Mandouakila.
Je crois qu'il est temps que nous puissions savoir ce que nous voulons et mettre les batteries en marche pour éviter toujours de subir les événements. Nous devons avoir cette capacité d'anticiper, même si c'est que nous serons en 2016 en mettant déjà les batteries en marche aujourd'hui.
Jean-Baptiste Badera.
Moi, je pense que l'essentiel, comme l'ont souligné tous les débatteurs avec qui nous sommes dans cette émission, c'est d'arriver à un dialogue national, parce que quel que soit le résultat qui va sortir de Kampala, ça ne va pas résoudre le problème que connaissent les Congolais avec ce qui se vit aujourd'hui sur le plan social et sécuritaire, notamment dans l'est de la RDC.
Fin de la tribune de la presse de ce jour. Samuel Kachak l'a réalisé sous la supervision de Pélékipé Lamondo. Sylvain Matundu était à la technique. Présentation et coordination, Alain Roum-Mouchige. Vous nous avez suivis. Nous vous disons merci et bon week-end à tous.